Donc, maintenant, le rite introduit deux possibilités. Un, de pouvoir lancer quelque chose, une proposition de loi, et deux, de pouvoir dire oui ou non à cette proposition. La chose originale, c'est que quand on a les deux qui sont ensemble, ça veut dire que la proposition de loi ou l'abolition de loi, à aucun moment de la procédure, n'intervient aucun élu. Puisque c'est les citoyens par pétition et les citoyens par référendum qui font tout le boulot. Donc, ce boulot est alternatif à ceux des parlementaires. C'est pas ces deux droits de plus, mais le reste reste pareil. C'est pas l'abolition du Parlement, le RIT. C'est juste une autre manière de faire la loi. Ok ? Donc, on a, avec le RIT, certains disent, à juste titre, le RIT, c'est un instrument de division des pouvoirs, parce que aujourd'hui, on a une seule manière en France de faire la loi, via le Parlement. Avec le RIT, on en a deux qui sont en compétition. Ok ? Ça, c'est le premier aspect important. Après, il y a des variantes à l'intérieur du RIC. Il y a les variantes, on les présente avec la forme qu'ils ont pris en France, même si on pourrait aussi les présenter légèrement différemment, mais dans l'ensemble, c'est très clair. Il y a le RIC constitutionnel, constituant, le RIC législatif, le RIC abrogatif, et le RIC révocatoire. Vous avez peut-être entendu ça, c'est avec le sigle CAR. Alors, le RIC constitutionnel, c'est, et on va le voir avec quelques, c'est la possibilité de changer la constitution à travers le RIC. Et là, il y a quelque chose qu'il faudrait mentionner aussi, qu'un certain nombre de pays ont, en Europe, notamment toujours la Suisse, mais aussi l'Irlande et le Danemark, le fait qu'on ne peut pas changer la Constitution sans référendum. Il n'y a que... Ça s'appelle le référendum obligatoire. L'initiative, ça peut être des citoyens, ça peut être des parlements, ça peut être des présidents, mais qui dit oui ou non, c'est toujours par référendum. Ça, c'est très important aussi comme procédure. Donc, le RIC constitutionnel, ça signifie qu'on peut changer la Constitution. La Constitution, dans nos pays, c'est ce qui vaut le plus. C'est le pouvoir, la loi suprême. C'est-à-dire que vous avez entendu le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel sert à voir si les lois ordinaires, c'est-à-dire celles qui sont à un niveau plus bas, sont oui ou non conformes à la Constitution. Parce que s'ils contredisent la Constitution, les lois ordinaires sont plus valables, automatiquement. Par conséquent, la Constitution, c'est la loi la plus importante. Nous, on montre dans le livre que le RIC au niveau constitutionnel, qui existe dans beaucoup moins de pays que les 36, il existe dans 13 pays, c'est celui qui est le plus important, parce que dans cette compétition entre législative, entre les citoyens d'un côté et les parlementaires, il faut, pour que le RIC marche, on verra pourquoi, il faut que les citoyens, en cas de conflit, aient le dernier mot. Le dernier mot, ça veut dire la Constitution. Pour cette raison, toutes les propositions de RIC qu'on a entendues, qui disent qu'à un moment ou l'autre, le RIC passe par le Conseil constitutionnel, et analysé par le Conseil constitutionnel, ça veut dire que le RIC n'est pas constitutionnel. Parce que s'il est constitutionnel, on peut faire ce qu'on veut. On n'a pas besoin de l'avis du Conseil constitutionnel. Donc ça veut dire, et il faut avoir les oreilles prêtes là, s'il y a Conseil constitutionnel quelque part, c'est un petit RIC. Ça, dès le départ. Le RIC législatif, c'est juste pour faire des lois ordinaires. Donc, justement, là, par contre, ça doit passer pour le Conseil constitutionnel, c'est les lois moins importantes. C'est bien, même s'il y a des problèmes, Clara peut mentionner. Ensuite, il y a un RIC qui est très utile, qui est le RIC abrogatif. C'est le RIC de la taxe de carburant. C'est-à-dire que dans certains pays, et là c'est assez répandu, quand on fait une loi, pour l'appliquer, il faut attendre un certain temps, par exemple 3 mois. Parce que dans ces 3 mois, on peut faire une pétition pour abolir cette loi, et qui ont aussi un avis au seuil, il y a un référendum, et si ce référendum passe, la loi est abolie. C'est le cas taxe des carburants. Donc ça, c'est aussi très pratique, c'est un contrôle sur les élus. Et enfin, il y a le rite révocatoire qui est assez particulier, qui consiste à pouvoir chasser un élu suite à une pétition et un référendum. Alors, parfois, il n'y a pas de référendum dans le RIC obligatoire. Parfois, il y a une pétition qui est suffisamment grande et qui déclenche les élections, puisque le RIC obligatoire peut être conçu aussi comme un pouvoir de dissolution. Vous savez qu'aujourd'hui, le président peut dissoudre l'Assemblée s'il n'est pas content. Mais il n'y a que lui qui peut le faire, pas nous. On peut aussi imaginer que nous, on peut la dissoudre, parce qu'au fond, avec... Et ça existe dans certains États des États-Unis, et le RIC révocatoire existe aussi dans beaucoup de pays, dans des cantons suisses, dans des pays d'Amérique latine qui ont mis ça avec des conditions prohibitives, donc ça ne marche pas, mais néanmoins. Alors, ça marche, parfois ça marche, c'est-à-dire, aux États-Unis, vous avez peut-être entendu d'ailleurs l'élection de Schwarzenegger en Californie, c'était suite à un RIC obligatoire, qu'eux ils appellent recall, révocatoire. Donc, ils avaient fait, le gouverneur d'avant, ils ont fait une pétition, un référendum, ils ont chassé, ils ont refait une élection. Mais c'est des cas assez rares, en fait, c'est-à-dire que quand le RIC, les autres RIC, disons, le RIC essentiellement constitutionnel et le RIC révocatoire fonctionnent, le RIC révocatoire, chasser les élus, il n'y a plus trop besoin. C'est très peu utilisé. En revanche, il y a d'autres pays, comme le Pérou, où les RIC ne marchent pas, mais le RIC révocatoire fonctionne bien. Donc, un élu sur deux a une procédure de révocation contre lui. Énorme. Donc, au Pérou, ils utilisent à fond le révocatoire, et en général, moins on a des instruments pour intervenir dans la loi, et plus le RIC révocatoire l'utilise. D'ailleurs, en ce moment, tout le monde veut chasser Macron. Mais en réalité, naturellement, si on disposait du RIC, on n'aurait pas besoin de le chasser, on aurait juste besoin d'annuler certaines de ces décisions, d'être plus ou moins nombreuses.
Un certain nombre de repères historiques. La première chose, c'est qu'il y a l'ancêtre du RIC, ou en tout cas de forme assez proche, se pratique déjà au XIIIe siècle, dans des communautés alpines en Suisse, mais pas qu'en Suisse, dans des communautés alpines en France et au Pays Basque. Alors au Pays Basque, on appelait Ante Iglesia, parce que c'est des rassemblements devant l'église, en fait, sur la place du village, où les habitants se rassemblaient, mettaient sur l'agenda des questions. Alors typiquement, souvent à l'époque, c'était la gestion des pâturages, la gestion d'une série d'affaires communes, et puis il y avait des décisions à la majorité, on prenait ou on laissait. L'autre aspect qui est important dans ces petits repères historiques, c'est que souvent on dépeint l'histoire suisse, en tout cas la culture des Suisses, comme une culture très consensuelle, d'individus très débonnaires, très sympas, mais pas du tout dans le conflit. Or, l'histoire suisse, il y a eu un mouvement très très proche de celui des Gilets jaunes au XIXe siècle, qui réclamait la restauration justement de pouvoir de décision collective, et un certain nombre de cantons sont passés pas très loin de la guerre civile à ce moment-là. C'est-à-dire la question de redonner du pouvoir aux gens a donné lieu à un conflit important. Donc c'est pas quelque chose qui est, on va dire, dans l'ADN d'un certain nombre de peuples ou dans la culture d'un certain nombre de peuples. C'est soit gagné suite à vraiment un rapport de force parfois très très tendu, soit gagné ou en tout cas concédé par des élus. Là, on a quelques exemples en Europe de l'Est. C'est après des expériences autoritaires, la nouvelle constitution donne plus de droits aux citoyens. Ce qu'on constate quand on compare ces dispositifs, c'est que quand le RIC est concédé par des élus, c'est un RIC qui est soit très très difficile à utiliser, soit très très limité. C'est vraiment une mesure qu'on ajoute, mais un petit peu cosmétique. Ça ne va pas aussi loin qu'une mesure qui est vraiment obtenue suite à un rapport de force. La culture française, on parle souvent de la culture française qui serait antinomique à l'idée du RIC, la Révolution française qui n'aurait pas mis sur l'agenda ces questions-là. En fait, la première constitution, celle de 1791, a des mécanismes de démocratie directe importants. Et c'est très fortement poussé à l'époque de la constituante, des discussions sur la façon de convoquer le peuple plus souvent et de prendre des décisions plus souvent. Ça a été interrompu, la constitution de 1791, suite à la terreur, la France était au bord de la guerre civile, et interrompue, devait se mettre en place, et la grande victoire des mouvements libéraux qui étaient opposés à ce que le peuple décide seul et intervienne seul dans le processus législatif. On met la Constitution dans les tiroirs, on l'enferme et on ne la ressortira plus vraiment. Mais dans l'histoire de la France, il y a eu des partisans très très forts de la démocratie directe. Dans le livre, on cite un peu Condorcet parce que effectivement, Condorcet a défendu ces mécanismes-là dans des formats très proches de la façon dont le RIC est pratiqué, notamment des questions de type binaire, l'idée qu'il n'y avait pas forcément obligation de contraindre les gens à débattre. En fait, il suffisait que les gens réfléchissent dans leur âme et conscience sur leur position et ça suffisait à ce qu'ils prennent une décision de type éclairée. Les recherches un peu sur la question de comment le RIC naît et par qui il est porté, il y a quelques petits éléments, on n'a pas beaucoup de cas, mais en tout cas quelques petits éléments. Le premier, c'est qu'il naît dans des sociétés très polarisées, où en fait le RIC, et c'est ce qu'on attend de la démocratie, c'est une façon de gérer pacifiquement le conflit, c'est-à-dire d'intégrer dans nos façons de fonctionner ensemble des façons de se mettre d'accord quand on n'est pas d'accord sur grand-chose. Bon, on se met d'accord, au lieu de se taper sur la gueule, on fait un RIC et on a au moins une modalité de décider en commun. Ça, on retrouve beaucoup, des grands moments de polarisation entre des groupes produisent du coup la mise en place du RIC. Ça a été aussi mis en place dans des endroits qui n'étaient pas facilement accessibles par le pouvoir et par l'armée. Puisque quand vous voulez reprendre la main sur pourquoi les communautés alpines, c'est pas parce qu'il y a un air alpin qui rend démocratique, c'est parce qu'en fait, c'est difficile à contrôler des territoires. C'est pas évident de reprendre la main sur une série de municipalités quand il faut prendre l'assaut des montagnes. On a fait quelques petits... on a essayé de retrouver un peu qui étaient les mouvements idéologiques qui avaient porté le RIC, les grandes idées, alors qui, des socialistes, des anarchistes, des libéraux, etc. Ce qu'on a vu qu'il y avait en commun, c'est que il est défendu souvent par les gens qui n'ont pas le pouvoir. Donc, quand les socialistes n'ont pas le pouvoir, ils l'ont défendu très très fort, et puis quand ils ont le pouvoir, ils ont dit « Ah mince, le peuple vote comme les bourgeois leur donnent de voter ». Quand les libéraux n'avaient pas le pouvoir, ils le voyaient comme un instrument de dissolution du pouvoir. En Suisse, les minorités catholiques défendaient le RIC très fortement et les partis catholiques parce que ça leur permettait de garder un instrument quand même de contrôle dans des situations où ils étaient minoritaires. Donc c'est quand même, en tout cas historiquement, l'instrument des perdants. Et l'instrument des perdants de ceux qui veulent garder quand même un contrôle quand ils ne sont pas au pouvoir. Voilà un peu sur ça. On voulait ensuite dire quelques mots, je lance et puis je te laisse la parole sur le tour du monde du RIC. Et là, on a un collègue qui a patiemment et résolument décortiqué les constitutions nationales. Donc on a essayé de faire le tour du monde du RIC tel qu'il se pratique au niveau national, parce qu'au niveau local, c'était une tâche quand même trop difficile et il y a tellement de dispositifs qui existent qu'on s'est quand même cantonné au niveau national. Il se pratique premièrement dans 36 pays, donc pas si exotique que ça, et dans 18 pays, il est inopérant. Et là, on va discuter peut-être de pourquoi il est inopérant et qu'est-ce qu'on sait des raisons qui rendent un RIC inopérant, peut-être pour exercer aussi des modalités de vigilance collective sur quels sont les petits moyens de concéder le RIC en le rendant, en étant sûr qu'il ne sera jamais mis en œuvre.
La première chose qui explique que le RIC ne marche pas, c'est le seuil de signature, tout simplement, ça c'est le plus intuitif. Il y a des pays, en fait, le seuil de signature va prendre en compte deux paramètres. Un, c'est le seuil absolu, parce que c'est 500, 700, 1 million. Et l'autre, c'est le pourcentage de la population. Parce que évidemment, quand c'est 10% au Liechtenstein, il a un RIC depuis 1924, très intéressant d'ailleurs, parce que eux, ils ont un prince aussi. Et le prince a le droit de mettre un veto sur le RIC. Donc, normalement, on ne devrait pas le mettre dans le livre. Parce que nous, on n'applique que les RIC contraignants, pas les RIC consultatifs. Nouvelle-Zélande, par exemple, a un RIC consultatif. Mais on n'est pas obligé là-dessus. Sauf qu'on l'a pris en compte quand même, parce qu'il y a une petite clause au Liechtenstein qui est la suivante. Le prince peut dire non à un RIC, sauf si le RIC sait chasser le prince. Là, c'est pas mal parce qu'il a jamais dit non. Une fois, il a tenté de dire non sur une question de l'avortement. Ils lui ont tout de suite déclenché une procédure pour le chasser. Il a dit « Je ne dis plus jamais non ». Donc on l'a pris. Là, c'est un cas de rite révocatoire qui peut réparer un peu un rite main. Donc, le premier est, question est le seul. Donc, la France est un pays peuplé. Si la France avait un rite sérieux, ce serait le plus peuplé, sachant que néanmoins la Californie a un rite vraiment sur la constitution très 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 puissant et ils sont 40 millions. Donc, quand même, c'est quand même gros. Ce seuil, on a vu que au-delà de 5%, on ne marche pas. Et 5%, c'est même limite. En fait, ce qu'on propose, c'est 700 000, qui est un peu moins de 2%. Sachant que, par exemple, en Suisse, c'est 2%, mais c'est un petit pays. Là, c'est 1,7. En Italie, pour les rites avocatoires, c'est 1%. Ou en Suisse aussi, pour l'avocatoire, c'est 1%. Voilà. C'est ce seuil-là qui fonctionne. Alors, on a des gens, des pays, les Philippines, ils l'ont mis en place, ils ont 12%. Alors, les Philippines, c'est le cinquième pays le plus peuplé au monde. Donc, 12%, ça nous fait, je ne sais plus combien de millions de personnes qui doivent signer. Donc, le dernier référendum qu'il y a eu en Philippines, c'est pour voter cette constitution avec le rite dedans. Depuis, il n'y a plus rien. 12%, c'est beaucoup trop. On a aussi d'autres obstacles, c'est-à-dire la durée de recueil des signatures. Là, il y avait le Venezuela qui a mis aussi un seuil élevé, 15%, donc c'est déjà très dur. Mais pour être sûr que personne ne l'utilise, il a aussi proposé que ces 15% doivent être recueillis en 3 jours. Alors, un miracle est arrivé, bien sûr. Il y a un référendum révocatoire pour chasser Chavez. Il y en avait un au Venezuela. C'est pour ça qu'il n'est pas compté dans les 18 qui n'ont rien. Mais qui l'a fait pour chasser Chavez? C'est tous les pouvoirs économiques. Parce que qui est capable de prendre 15% de signatures en 3 jours? Seulement les plus riches, les plus influents. Donc en fait, le seuil de signature et la durée de récolte, c'est quelque chose qui... Plus c'est petit, la durée, et plus c'est gros le seuil, plus ça reste un pouvoir à très peu de gens. Donc mettre le seuil bas et la durée de signature longue, ça veut dire démocratiser le rite, donc le faire donner un peu... Il y a un troisième écueil qui est sur les sujets. Alors, quand c'est pas, comme je vous disais, constitutionnel, il y a toujours des limites sur les sujets. Essentiellement des limites fiscales, des limites sur les traités internationaux et évidemment constitutionnels. Alors, par exemple, l'Italie, c'est le deuxième pays qui a fait le plus de rites parce qu'il a un seuil très petit, un temps de signature assez gros, alors les limites sont énormes. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la Suisse est une démocratie directe, mais l'Italie non, parce que c'est juste un petit outil d'appui, mais on peut faire peu de choses. Alors, les Italiens ont quand même fait passer... ont quand même arrêté l'énergie nucléaire par RIC. Ils ont quand même le divorce, c'est par RIC, l'avortement, c'est par RIC. Donc, c'est pas rien. Mais quand on n'a pas les questions fiscales, quand on n'a que les questions constitutionnelles, ça reste un pays où la main, le dernier mot, c'est quand même les élus qui l'ont. Si bien que de tous les RIC qui pouvaient être votés, il y en a quand même une bonne tiers ou moitié qui ont été mis dans les tiroirs et empêchés d'être faits. Voilà, pour prendre un autre exemple. Tu veux répondre à la question du Coran ?
Tu fais exemple de
répondre
au Coran ?
Oui.
L'autre élément au-delà du seuil de signature et de la durée de collecte, c'est la question des quorums. C'est un mot compliqué pour juste dire. Est-ce qu'il faut que le vote remplisse une série de conditions? Et en général, on a plusieurs types de quorum. Un quorum participatif, c'est-à-dire l'idée, il faut qu'il y ait 50% d'électeurs qui se déplacent aux urnes, ou ce qu'on appelle un quorum approbatif, c'est-à-dire il faut que dans le vote, la mesure recueille un pourcentage de oui placé à 30-40%. Montre dans le livre, une façon de rendre le RIC inopérant, c'est de la sortir de quorum, c'est-à-dire de contraindre les conditions de validité du vote. Alors Raoul, tu pourras donner des exemples de quorum participatif, tu en as en tête ?
Oui, oui. Alors, le participatif, c'est ce qu'il y a en France. Hein. Donc, quand, en France, au niveau local, bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'élite en France, ni même au niveau local, mais il y a des référendums, des initiatives, et il y a des initiatives des collectivités territoriales, et il y a un quorum. Un quorum, ça veut dire participatif, donc, comme dit Clara, il faut qu'il y ait, pour passer le référendum, pour être validé, il faut qu'il y ait la majorité de oui, plus 50% des gens qui participent à l'élection. Autrement dit, par exemple, si les mêmes règles s'appliquaient aux non-parlementaires, le Parlement serait vide de 2/3 aujourd'hui. Ce quorum a été vraiment critiqué parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est que toutes les fois que vous êtes pour le non, au lieu de voter non, vous n'allez pas voter. Ben oui, parce que ça fait baisser la participation. Non seulement vous n'allez pas voter, mais on va en parler le moins possible pour que les gens oublient qu'il y ait un référendum, ils ne savent pas de quoi ça parle, etc. Donc, ça fait l'effet inverse. Les gens ne participent pas, les gens ne discutent pas. Et à la fin, ce n'est pas validé. Ce qui est quand même assez embêtant, parce qu'il y a certaines... Un des trucs immédiats, et ça on le sent aujourd'hui, d'Eric, c'est l'effet sur les conditions des hommes politiques et des femmes politiques. C'est-à-dire les privilèges. Le premier RIC de l'histoire qui a été voté aux États-Unis, c'était parce qu'un gouverneur voulait se doubler son salaire. Non, on va faire un RIC. Et les gens ont voté pour que le salaire reste le même. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Et là, les 50% de participation, c'est extrêmement courant. Et ça tue un nombre de RIC. C'est le tueur de RIC, le courant 50% et voire plus. C'est-à-dire, en Slovaquie, par exemple, il y a une série de RIC qui pouvaient finalement rendre le Parlement plus supportable en Slovaque, parce que un des RIC, par exemple, c'était sur limiter le prix des limousines des parlementaires. C'est honnête. Niveau national, hein. Naturellement, 90% dit oui, mais le quorum n'est pas atteint. Parce que les gens ne votent pas, n'étaient pas informés. Donc, annulé. Alors, on va imaginer, mais on annule des choses que 90% des gens ont voté, ils sont encore plus énervés que s'ils n'avaient pas de RIC, enfin presque pareil. Alors que dans d'autres pays, dont la Suisse, c'est quand même l'exemple où ça marche le mieux, il n'y a pas de quorum du tout. La majorité simple suffit. Et même comme ça, depuis le début de ce système, c'est-à-dire, disons, le début actif en 1891, mais ça existe depuis 1848, seulement 8%, 8 à 9% des initiatives citoyennes, des gens ont voté majoritairement oui. Donc ça veut dire que 9 sur 10 sont rejetés. Il n'y a pas de quorum. Alors que si on ajoute le quorum, c'est terrible, c'est autant la laisser tout de suite. Et il y a plusieurs. Clara a parlé de quorum approbatif qui est aussi assez mauvais, mais bon, on ne va pas développer là. Il y a aussi le quorum qui est majorité qualifiée. Pour changer la constitution, il faut 66%, non pas la majorité, mais 66%. Cela a un sens quand on parle des parlementaires. Mais quand on parle des gens, c'est hyper compliqué. C'est les îles Palau qui ont fait ça. Il faut 66% et ils voulaient faire passer un accord d'échange avec les autres îles et avec les États-Unis qui était largement populaire dans la population. Donc, mais ils sont obligés de passer par la Constitution. Donc, ils l'ont lancé une fois, 1990, il a obtenu 63%. Bon, on le refait. Deuxième fois, je ne sais plus, 61. C'est toujours plus de 60, mais ça n'arrivait jamais aux 66. Ils ont voté 8 fois, les gars. Jusqu'à un moment, ils se sont dit, bon, ça suffit maintenant, on change la règle, on fait la majorité simple. Là, depuis qu'ils ont fait la majorité simple, le RIC marche à mort. Les gens le font parce qu'ils y croient. Et donc, en fait, très souvent, non seulement les quorums tuent les RIC, mais il les tue même préventivement. Parce que quand on sait qu'il y a un quorum trop élevé, pourquoi se fatiguer à faire des signatures que de toute façon ça ne passera pas? Donc, on observe qu'il y en a beaucoup moins. Dans le livre, on a la liste de tous les RIC dans le monde au niveau national qui ont été faits dans les différents pays. Il y a des différences. Depuis 1995, par exemple, en Suisse, il y en a eu 85 de RIC. 1, en Russie, 0. Le RIC russe ressemble assez à ce que Macron propose. Voilà, et on a d'autres exemples. Je laisse la parole pour les effets.
Oui, on a aussi essayé de travailler sur les effets. Qu'est-ce que produit le RIC? Alors, ça peut paraître un peu bizarre de se poser cette question, mais en fait, parfois il suffit d'un changement de règle et d'un changement de règle du jeu politique, pour que ça ait des effets très très grands. Donc les effets qu'on a mentionnés dans le livre, c'est les effets sur lesquels, vous savez, en sciences sociales, c'est pas toujours facile de mesurer un effet, d'être sûr qu'il y a bien une causalité. Mais en tout cas, on a retenu les études les plus solides. C'est-à-dire qu'on sait, on a lu, on a décortiqué, on vous explique aussi la méthodologie des études, comme ça on ouvre un peu la boîte noire. Là, je ne vais pas le faire ici, mais je suis ravie de répondre aux questions. Et on va juste présenter ce qu'on sait avec un... On n'est jamais sûr de rien. En tout cas, on sait avec un degré de certitude qui est important. Le premier série d'effets sur lequel on a travaillé, c'est les effets sur les politiques et sur la vie politique. Qu'est-ce que ça fait, le RIC, sur la vie politique? Et là, c'est assez sympa parce qu'on peut comparer. Je pense qu'il y a un enseignement à retenir de ça, c'est qu'il faut toujours comparer le RIC à d'autres systèmes. Discuter des vertus du RIC en soi, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'en soi, comme tout système, il a des potentialités d'amélioration. Il faut comparer à ce qu'on a aujourd'hui. Et souvent, on a tendance à oublier ce qu'on a aujourd'hui et à penser, par exemple, qu'il est absolument improbable qu'un jour un élu en France restaure la peine de mort. Mais en fait, c'est probable. Ça peut se passer. Donc il faut comparer avec qu'est-ce que, comparer, par exemple, les effets que ça a sur les Suisses, les Californiens, les Allemands, les Italiens, et par rapport aux Français et aux personnes qui ne l'ont pas. Le premier grand résultat, qui est là aussi très solide, c'est que le RIC, ça rend les politiques plus conformes aux souhaits de la majorité. Alors on peut ne pas aimer ce que pense la majorité, mais en tout cas ça rend les politiques plus conformes aux souhaits de la majorité. Mais ce qui est encore plus fort, c'est pas dans tous les domaines, surtout sur les questions, où ce que souhaitent les élus et ce que souhaite la majorité, c'est très différent. Exemple, le cumul des mandats. Les élus sont plutôt favorables au cumul des mandats, cumul dans le temps et cumul un peu dans l'espace des types de mandats. Le RIC, c'est un bon moyen de contrôler, et on a eu un certain nombre de RIC pour justement contrôler le nombre de mandats des élus, obliger par exemple à une limite dans le temps, un mandat, deux mandats, durée des mandats, ou limiter le cumul. Sur la question des rémunérations des élus, alors là, l'exemple de Raoul, du premier RIC au monde, c'était une question de rémunération des élus, là aussi, bah, ça a tendance à rendre, en tout cas, les situations des élus, les privilèges des élus, plus conformes à ce que souhaite la majorité. Donc c'est un bon argument pour dire, en fait, le poids des lobbies, on ne le voit pas trop à ce niveau-là. En tout cas, sur les politiques mises en place, c'est des politiques qui sont plus semblables aux souhaits de la majorité. Tu m'interromps avec le micro, si tu veux donner des exemples. Le deuxième aspect sur lequel il y a beaucoup de recherches, c'est sur les politiques fiscales et budgétaires. Et là, une des idées souvent qui est avancée sur la question du RIC, c'est est-ce qu'il y a des sujets sur qui sont trop importants pour laisser les gens décider dessus? Et souvent, un des enjeux qui est donné, c'est les questions fiscales et budgétaires. Vous et moi, nous ne serions pas compétents pour gérer le budget ou la fiscalité au niveau d'une nation. Parce qu'on n'arriverait pas, c'est trop complexe, trop technique, trop compliqué. En fait, ce qu'on observe sur la question de la dépense publique, c'est que le RIC, avoir un RIC, comparé à ne pas en avoir, ça donne un niveau de dépense publique qui est, là encore, plus conforme aux souhaits de la majorité. Ça veut dire quoi dans les faits? Ça veut dire, par exemple, que des grands projets d'investissement peuvent être annulés. On a parlé de Zurich. C'est-à-dire qu'il y a un débat sur est-ce que cette demande est-ce que ce grand projet... Il est favorable à la majorité? Est-ce qu'il bénéficie à tous? Est-ce qu'on en a besoin maintenant? Donc ça produit ça, le RIC. Ça veut dire que sur les questions fiscales et budgétaires, on décide collectivement, comme on décide collectivement quand on est dans une asso, qu'est-ce qu'on va faire du budget, comme à la maison, on décide de bah, où on va allouer les dépenses et qu'est-ce qu'on peut se permettre en termes de dépenses. Un effet aussi qui est intéressant, parce qu'on oublie souvent, c'est que souvent la dépense publique, c'est utilisé pour, on dit, récompenser les clientèles électorales. C'est-à-dire que quand vous avez été élu par le soutien d'un petit nombre de personnes, je suis désolée, je vais encore prendre l'exemple d'Emmanuel Macron, mais il est trop beau, c'est-à-dire vous êtes élu avec le soutien d'une série de grands groupes, vous faites une ristourne fiscale à ces grands groupes. C'est bien naturel, ces personnes vous ont aidé, vous ont fini un coup. Ce cadeau fiscal, c'est pas la personne qui le fait, qui le paye, c'est nous tous. Or, nous tous, on parle d'un effet de dilution, c'est-à-dire quand on est... Tout le monde ne paye pas d'impôts, on est un peu nombreux à payer des impôts. Bon, bah allez, un cadeau fiscal, c'est après réparti sur une série de foyers fiscaux. Et parfois, le coût, on le voit beaucoup moins que si c'était vraiment endossé par les personnes qui paient. Or, le RIC, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que les personnes qui vont payer sont aussi celles qui décident de louer à louer la dépense. Donc, par exemple, dans une série d'États, on voit que les dépenses fiscales sont plus favorables, par exemple, à des mécanismes de redistribution. On défend la dépense fiscale pour la solidarité, pour les transferts de richesses, parce que c'est des dépenses qui partent au plus grand nombre. On peut un jour, vous et moi, être dans le besoin, on est peut-être. Et donc du coup, on se dit, bah là, on est d'accord de payer pour la collectivité.
En fait, le RIC réduit la dette publique. Voilà. Ça, c'est observé désormais assez stablement comme résultat, sauf dans les endroits... dans lequel ceux qui votent n'ont pas, ne sont pas aussi ceux qui payent les impôts. Exemple, si on fait le RIC local en France, les ressources d'une ville ne sont pas directement payées par les contribuables parce qu'on paye à l'État. Donc quand on fait un pont dans une ville, on paye avec les ressources aussi des autres contribuables dans d'autres villes. Donc évidemment, là, par contre, on a tendance à faire un peu plus. Mais par contre, quand les gens... votent au même niveau, ils payent les impôts ou ils ne payent pas, mais en tout cas, ils sont censés les payer s'ils gagnent des sous, on va dire. À ce moment-là, il se crée une situation où les dettes sont plus faibles. Alors, dans la radio, il me dit, oui, mais moi, je suis contre les politiques d'austérité. Mais, donc, évidemment, les politiques d'austérité, c'est autre chose, mais le fait de ne pas avoir de dettes, pour tout un chacun d'entre nous, c'est toujours mieux. Après, on peut avoir des dettes si ça vaut la peine. Donc la question est, quelles dépenses on fait? Aujourd'hui, par exemple, sur la taxe des carburants, plutôt qu'avoir un RIC abrogatif, qu'on a dit, on a essayé de voir les dépenses qu'on a faites. On a essayé d'être totalement inhumain, considérer les choses qu'en termes de sous. Combien ça coûte toutes les gardes à vue? La mobilisation des policiers sur... Effectivement, la question n'est pas tant austérité ou non, la question est quels sont les investissements qui valent la peine. Donc, effectivement, le fait d'être public, ça montre que toutes ces dépenses dont a parlé Clara, qui sont des dépenses en fait, de clientèle électorale, de attention à ne pas vouloir perdre le pouvoir, etc., ben, c'est des dépenses qui ne sont pas faites.
Et un autre effet qu'on a, qui est plus compliqué à analyser, c'est l'effet sur les droits civiques, les droits des minorités. Et est-ce que le RIC, en fait, détruit les droits civiques et les droits des minorités? Et là, du coup, il y a aussi une série de recherches qui a été menée sur des sujets qui sont en plein dans l'actualité, sur la question de la peine de mort. Est-ce que le RIC produit un retour de la peine de mort? Sur la question des droits des femmes, des droits civiques, c'est-à-dire des droits des femmes, notamment les questions autour de l'avortement, du suffrage féminin, puisque l'histoire, en tout cas, suisse n'est pas très brillante en la matière. Et sur une autre série de mesures qui a été, deux autres séries de mesures qui ont été étudiées, c'est la question des langues régionales et minoritaires, la protection accordée sur ces langues-là. Et le dernier, c'est la question de l'accès au mariage pour les personnes de même sexe. D'ailleurs, on a eu des RIC assez nombreux sur ces sujets pour essayer de voir un des effets. Alors, sur la question, premièrement, préalable, le RIC rend les décisions conformes aux souhaits de la majorité. Si la majorité est conservatrice, il n'épargne pas de faire un travail de discussion, de débat sur une série de sujets et sur la question des droits civiques. Donc, ce qu'on observe sur la peine de mort, par exemple, on observe sur la question de la peine de mort une spécificité du côté des États-Unis. Alors nous, en sciences politiques, on dit que les Américains aiment la peine de mort. Parce que c'est vrai que c'est quand même un des États qui conserve la peine de mort, parfois avec du moratoire, mais c'est aussi par RIC que, par exemple, la peine de mort a été abolie en Oregon en 1918, en Suisse en 1914 et en Suisse en 1938. Donc on a aussi, si on regarde les exemples, il faut regarder toute l'histoire. Ça, c'est clair. On a un certain nombre de cas aux États-Unis où il y a eu des votes ping-pong, c'est-à-dire abolition, restauration, souvent par exemple sur une série de crimes. On a des États où la peine de mort a été restaurée, mais avec un moratoire. Restaurée, mais n'est plus utilisée. Du coup, la conclusion, c'est qu'effectivement, dans les endroits où la majorité est favorable à la peine de mort, le RIC, capte ces effets de la majorité. Par contre, ce qu'on sait, c'est que quand la peine de mort est abolie par RIC, il n'y a aucun cas, à part dans certains cas d'État aux États-Unis où c'est passé un cheveu, il n'y a pas de cas de retour en arrière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des situations où la peine de mort a été abolie en Europe par RIC et a été restaurée par RIC. C'est-à-dire c'est très très rare qu'il y ait un recul sur ces questions. L'autre question, il faut aussi souligner sur la question de la peine de mort que la plupart des études sont menées sur des temporalités où la France avait encore la peine de mort. C'est des études qui sont anciennes. Donc elles mériteraient d'être aussi un peu rafraîchies. On n'a pas d'études très récentes sur ces questions. Elles mériteraient d'être rafraîchies parce que les mentalités, elles évoluent sur cette question. Tu veux ajouter un point sur la peine de mort ?
Non, je me dis que peut-être il faut raccourcir, je ne sais pas où...
Je raccourcis, d'accord. Droit civique et politique,
si on
arrête.
On
va faire les effets sur les temps. On va rentrer sur l'avortement. C'est toujours les droits des femmes qu'on a coursé. Enfin, je passe. Les effets sur les gens, puisque c'est peut-être un des points qui est assez intéressant. Les effets sur les gens, un premier type d'effet, c'est, vous savez, souvent on dit les gens votent mal, les gens sont mal informés, donc s'ils décident Paris, ça va être le bordel. Enfin, ils ne sont pas plus capables. Il faut quand même des gens très qualifiés, très éduqués pour décider. Ce qu'on observe là où le RIC est pratiqué, et là on a assez aussi d'études comparatives, c'est que le RIC accroît, et là c'est aussi extrêmement solide, le niveau de connaissance des personnes sur la politique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous avez une question soumise à débat, vous discutez au bureau de tabac, vous discutez, alors nous on était en Suisse quand il y avait la question de la légalisation du cannabis médicinal avec un faible taux de THC, et j'ai eu un débat assez improbable au bureau de tabac, avec le buraliste qui expliquait à lui qu'il allait défendre la mesure parce qu'en termes économiques, ça allait ouvrir un nouveau marché, le marché des personnes âgées consommatrices de cannabis, qui n'est pas un petit marché, de cannabis médicinal. Et puis la cliente qui disait, moi je ne veux pas que les enfants puissent être près de ces lieux, donc il faudrait quand même trouver un moyen que ce ne soit pas vendu aux jeunes. Puis on est sorti du bureau de tabac, puis on a eu un débat avec lui. Moi aussi, ça me tue mon marché, je vais devoir déclasser ma clientèle. Enfin, c'était assez intéressant, c'est que vraiment dans la rue, on parlait de ça, quoi, parce que le vote arrivait et il fallait se faire un avis sur cette question. Donc plus de connaissances, ça c'est vrai. Une étude qui a été menée ensuite, c'est que vous savez, ce qui détermine le niveau de connaissances politique, c'est le revenu. Souvent, enfin, les personnes qui ont plus de revenus ont aussi plus de connaissances, et le niveau d'éducation. Et une étude qui a été menée et répliquée pas mal de fois a démontré que la simple instauration du RIC, ça a le même effet que si on amène un premier niveau de diplôme toutes les personnes qui, dans un système scolaire, décrochent avant un diplôme. C'est-à-dire le simple effet du RIC en termes de connaissances politiques, c'est comme si on accompagnait ces personnes. Et c'est comme si on augmentait le revenu moyen de 5 000 à 9 000 francs suisses. C'est pas rien, quoi. L'effet d'une mesure politique a un effet sur le niveau de connaissance des gens. Et je m'arrête là, j'ai plein d'anecdotes à vous raconter encore.
C'est que la Constitution française est pas si mal. C'est-à-dire qu'en enlevant tous les toutefois, dans les limites de, tous les encadrés par la loi, on est en démocratie directe. Si on enlève tout ça... Donc en particulier, il y a un article qui est l'article 89, c'est là qu'on a lancé une pétition avec un groupe de gilets jaunes de Savoie. L'article 89, c'est dans toutes les constitutions, le dernier article vise à décrire la façon dont on peut changer la constitution. Donc c'est là-dessus qu'il faut aller, c'est ça qui change la constitution. Aujourd'hui, qui peut proposer un changement constitutionnel ? le président, les parlementaires. Donc là, il faut ajouter 700 000 citoyens. Qui peut dire oui ou non à la proposition? C'est soit par référendum, aujourd'hui. Toutefois, ils disent, on peut avoir 3/5 des parlementaires. Ce toutefois est redoutable. Parce que sur 24 changements constitutionnels sous la 5e République, un a été ratifié par référendum. Et 23 par le toutefois. Donc nous, on propose simplement d'abroger le toutefois. Ce qui fait qu'il y aurait une proposition de changement constitutionnel qui peut poser le président, les parlementaires et 700 000 citoyens et qui peut décider uniquement par référendum. C'est ce petit changement introduit, donc le référendum obligatoire et le RIC constitutionnel, et change un seul article de la Constitution, et pour être précis, on a fait le calcul, la Constitution s'allongerait de 45 mots. Le tout avec toutes les précisions sur comment ça se passe. On a mis là, le général. Donc ça a cet effet sympathique qu'avec un minimum de réclamations, ça donne un maximum. Voilà, donc nous on a promu ça. On a analysé aussi d'autres. Et franchement, on a vu beaucoup de propositions qui sont très bien aussi et très sérieuses. Donc on n'est pas hostile aux autres propositions. On a juste proposé ça.
Voilà, bon, moi je me présente, on a des amis là qui est. Je me présente, je suis gilet jaune de Millau et je fais partie de ceux qui ont écrit le RIC qui a été affiché.
Oui,
c'est pour ça que j'ai fait quelques doutes exprès. Voilà. Donc nous, dans notre RIC, justement, on prend compte, vous pouvez le lire là-bas, c'est écrit. On parle on dit que simplement la personne qui se déplace pour aller voter, quoi qu'il mette dans son enveloppe, que ce soit un bulletin blanc, un bulletin nul, un bulletin déchiré, un poème de Victor Hugo ou n'importe quoi, à partir de là, il est pris en compte parce que la personne a fait la démarche de se déplacer. C'est déjà ça. Et je voudrais revenir un petit peu sur le quorum, parce que justement, nous, on a ce qui est affiché là-bas. On a travaillé, on en est à notre 17e atelier constituant, et serait-ce que sur l'histoire du quorum, à atteindre ou pas atteindre, ça a été le sujet d'à peu près 2 ou 3 ateliers constituants, parce que on a mis en balance à la fois la légalité d'un vote, majorité simple, et la légitimité d'un vote. Et les deux, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, dans notre système, c'était tout à l'heure la dame qui peut nous répondre, c'est que je reprends toujours l'exemple de l'élection qui a eu lieu à Évry pour remplacer Manuel Valls. La personne, elle a été élue, c'est une personne de La République En Marche, elle a été élue avec 17% de taux de participation, 82% d'abstention. Et bien la personne est élue. Mais par contre, est-ce qu'elle est légitime ou pas? Là est la question. Et donc, nous, on a traité cette question-là dans nos ateliers. Et justement, ce que l'on ne veut pas, c'est retomber dans ce processus. Et donc, on a mis, on peut appeler ça un quorum ou pas, mais on a dit simplement que lors d'un vote de référendum, si on obtient la majorité absolue, c'est-à-dire 50%, plus une voix, c'est la majorité absolue, le vote est OK, il est accepté. Par rapport au nombre d'inscrits. Mais par contre, si on n'atteint pas la majorité absolue, si on veut que le vote soit légitime, il va bien falloir mettre des garde-fous quelque part. Ce qui veut dire que dans notre RIC à nous, on dit que simplement, si après la phase de signature, puisqu'il y a une phase de signature, Pendant 2 mois ou 3 mois, moi je crois que c'est 2 mois ou 3 mois,
4 mois.
Voilà. Après il y a une phase d'information qui dure 4 mois, avec une convention citoyenne à l'image de Jacques Testa, pour rendre un avis, et après on vote. Si au moment du vote, on n'a même pas 20% de gens qui participent au vote, ça veut dire qu'il y a un problème. profond, on va dire. C'est un problème grave. Ça veut dire que le sujet, il intéresse personne. Si par contre, donc là, on joue en dessous d'un seuil de 20% de participation, on annule le référendum. Ça n'a aucun intérêt. Après toutes ces phrases, etc. Si par contre, au-dessus de 20%, et jusqu'à un seuil de 66%, vous en avez parlé tout à l'heure, entre les deux, s'il y a beaucoup de bulletins blancs, s'il y a une majorité de bulletins blancs, 30% de bulletins blancs par exemple, et puis qu'après ça c'est kiff-kiff et qu'on n'atteint pas les 66% de participation, alors là, on n'annule pas, c'est sur notre rythme là, on n'annule pas, mais on retourne à une phase d'information. Parce que ça voudrait dire que les gens, s'ils ont voté blanc, c'est que...
Il y a une TV, mais ils n'ont pas compris.
Il y a un intérêt, voilà, mais ils n'ont pas compris. Donc peut-être que la phase d'information n'était pas bonne, et donc on peut revenir à une phase d'information.
Ils n'ont peut-être pas compris, mais pas c'est pas mal exprimé.
Ça, les deux, c'est pas l'information. Et donc nous, on met la phase d'information, c'est la plus importante. Et donc nous... Dans notre atelier constituant, si on a proposé une convention citoyenne à l'image de ce que fait Jacques Testard, c'est justement parce que, y compris dans la phase d'information, si on se réunit entre soi comme ce soir, par exemple, ou si on se réunit tous, mais on est tous d'avis, du même avis sur le sujet, ce qui va en ressortir ne sera peut-être pas forcément aussi objectif qu'une convention citoyenne de gens tirés au sort et qui ferait des débats, des controverses entre les experts pour et les experts contre. Et à ce moment-là, ces gens-là, s'ils émettent un avis, il peut être plus objectif que de faire des réunions entre soi. Et donc ça, on s'est aussi posé cette question-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de réunions entre soi. Hein. C'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire simplement que l'objectivité peut ne pas être la même.
Je m'excuse.
Il y a un seuil de signature qui authentifie la proposition.
Oui.
Après intervient le vote, mais voilà. Avant il y a la proposition qui doit être validée par un certain nombre de signatures.
Et donc le seuil, nous on l'a, c'est affiché là, c'est 0,5% sur le plan national, ce qui correspond à peu près à 250 000 ou 300 000 signatures.
Par contre, moi je pense qu'on ne doit pas.
Seuil pas.
Mais on s'est mis une contrainte qu'on a réduite de la durée.
On est sur 2 mois. On a baissé le seuil, mais on baisse aussi le temps, parce que ce qui nous chagrine un peu, c'est que lorsqu'on veut faire un référendum d'initiative citoyenne sur un sujet qui pourrait être important, parce que nous aussi, enfin je ne sais pas vous, mais nous en ce qui nous concerne à l'atelier constituant à Millau, on considère que le RIC, ce n'est pas la panacée, ça ne réglera pas tout. Les affaires courantes peuvent continuer à être gérées par des assemblées constituantes à la place de l'EHPAD du Sénat. On mettrait une assemblée tirée au sort. Et à côté, une assemblée nationale. Voilà. Donc, ces deux chambres-là qui pourraient continuer à gérer les affaires courantes. Et sur les sujets importants, que ça soit fait donc en démocratie directe. Et le problème, il est que si on fait comme veut faire Macron avec son RIC, s'il veut faire avec un délai de signature de 9 mois, et après les autres, ils vont encore à l'Assemblée, les 4 500 000 signatures, après ça repart à l'Assemblée s'il leur faut encore 6 mois pour réfléchir pour le sujet, ça finit que ça se dilue dans le temps. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Pour au bout du compte, qu'il n'y en ait pas. Donc on a restreint un peu malgré tout ça sur un temps limité.
Et en mettant le focus sur la phase d'information. Voilà. Et en réduisant le nombre de sujets, on a proposé 6 questions ou 6 initiatives à votation à raison de 3 ou 4 fois par an, on aurait 18 propositions à l'année. Pour pas que ça soit trop, sinon c'est trop dense. Et c'était ça. On a beaucoup focalisé sur la phase d'information et les moyens de cette information.
Et juste pour conclure, nous, ce qui nous a fait penser à ça, à mettre des seuils, à la fois de participation pour la légitimité, par rapport à un résultat qui pourrait être à ces seuils, c'est justement, c'est qu'on s'est posé la question en se disant, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce que nous dit le gouvernement? Qu'est-ce que nous dit Macron? Qu'est-ce que nous dit le gouvernement? Qu'est-ce que nous dit l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que nous disent tous les élus de France? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent qu'avec 48 personnes, on peut voter une loi. C'est ça qu'ils nous disent en ce moment à l'Assemblée. Donc, moi je dis, parce que je l'ai vécu, c'est que dans les entreprises, que ce soit dans les usines ou dans la fonction publique, lorsqu'il faut des élections professionnelles, quand il faut lire et lire un délégué syndical ou un délégué du personnel, il faut atteindre un quorum. Sinon, l'élection n'est pas valable. Mais moi, je dis simplement qu'une des revendications des Gilets jaunes, aujourd'hui, ça serait de demander ce qu'il y en ait au moins un à l'Assemblée nationale.
Ben, en fait, moi, je vais vous parler de l'Assemblée des Assemblées de Saint-Nazaire.
On n'a pas le micro, hein, avec le micro.
Ah. Ça marche?
Oui.
Ah. Ok, donc en fait, là, on ne va pas parler du RIC, mais on va parler de démocratie directe. Puisqu'en fait, il y avait Commercy, qui est une ville d'à peu près 500 000 à qui avait lancé en fait la première Assemblée des Assemblées, c'est-à-dire d'envoyer des délégations de gilets jaunes se retrouver de toute la France et voir comment on peut en fait commencer à se structurer et à avancer ensemble, voir voilà, ce qui nous ressemble, ce qui nous rassemble et comment on pouvait un peu se structurer. Donc Commercy, déjà, ils avaient réuni 75 délégations. Les délégations, c'est de 2 à 4 personnes en fait. Et suite à cette assemblée, déjà ils avaient établi une charte et ils ont lancé du coup la deuxième assemblée des assemblées des Gilets jaunes, ce coup-ci à Saint-Nazaire. Du coup, Rodez en fait a décidé d'envoyer une délégation, puisqu'on était un peu curieux de savoir en fait en quoi ça consistait et ce que ça pouvait nous apporter à nous et au mouvement. Donc on y a été, donc on était 2 délégués, on était un observateur, on y était le 5-6-7 avril, et là on était en fait 230 délégations. Donc ça faisait entre 700 et 800 personnes réunies en fait de toute la France. Donc il faut savoir que Saint-Nazaire, eux, en fait, ils ont squatté l'ancien Pôle emploi qui était abandonné et en fait ils ont dû négocier pour pouvoir nous recevoir et faire l'assemblée des assemblées. Ils ont dû négocier en fait avec la personne à qui ça appartenait, qui devait faire des travaux. Ils ont négocié pour partir là il n'y a pas longtemps, le 23 avril, afin de pouvoir nous recevoir. Parce que quand même 700-800 personnes, c'était énorme. Donc ils ont cassé tous les murs, ils ont mis 90 lits, ils ont mis un énorme chapiteau, ils ont fait venir des cantines de lutte, ça s'appelle. Il y a eu une grosse organisation de leur part. On a été vraiment très bien accueillis. Donc en fait on était 2 délégués. Les rôles des délégués en fait c'est de porter la parole de notre rond-point, des personnes qui ont participé aux discussions. On a reçu à l'avance en fait 6 axes de travail. Donc les axes de travail c'était la communication, les actions, l'organisation face à la répression, les stratégies pour la suite du mouvement et les revendications. Donc en fait en amont dans notre groupe, avec Rodez et le groupe du Vallon, on a discuté de ces 5 axes. On a voté en fait ce qu'on voulait faire remonter. Donc voilà, nous, notre mission de délégués, c'était de porter leur parole. Ensuite, ça s'est traduit concrètement, la démocratie directe, ça s'est traduit en séance plénière. Donc le vendredi, en fait, on a fait des petits groupes pour trouver nos points communs et nos originalités. Ensuite, il y avait aussi 7 propositions qui venaient de groupes, mais ça, on les a reçues un peu au dernier moment, donc ça a été beaucoup moins travaillé, mais on y a participé quand même, notamment sur le collectif de Carcassonne, qui avait fait un sondage national, en fait, et qui, eux, voudraient faire des assemblées délibératives. Et donc, eux, ils ont expliqué un peu quel était leur projet, et le projet étant concrètement après de créer des lois. Bon, mais Ça, c'est autre chose que l'Assemblée des Assemblées, mais c'est une des propositions qui était ressortie, eux, spécifiquement de leur groupe. Après, on en a d'autres qui ont participé donc, pour l'action dans le cadre des élections européennes. Ensuite, le samedi, donc, on a commencé en séance plénière aussi, on a fait la synthèse de tout ce qui était ressorti des groupes le vendredi. Ensuite, on travaille par petits groupes après. On se divise, on est des groupes de 20 ou 30 personnes, où chacun en fait prend la parole et dit ce qu'il a à dire sur tel sujet. Et ensuite, il y a des rapporteurs qui rapportent ce qu'a dit le groupe. Et en fait, c'est comme ça qu'on avance et qu'on fait des synthèses. Et on ne peut pas participer en fait à tous les groupes de travail. Par contre, à la fin, on vote. On vote si on est d'accord avec ce qui est ressorti ou si on n'est pas d'accord. Voilà. Et ça, c'est des votes plutôt consultatifs, puisque ça, c'est nous les délégués qui votons, mais on ne prend pas de décision par rapport à nos groupes locaux. Donc en fait, le résultat, c'est que, en fait, à l'Assemblée des Assemblées, ce qui ressort, ce sont des orientations. Ces orientations, sur tous les thèmes qu'on a travaillés, on les fait redescendre dans nos groupes locaux. Et on revote pour voir ce qu'on valide. Sachant qu'à la fin des assemblées, le but c'est de faire des appels, que ce soit aux citoyens, ou à ceux qui sont déjà gilets jaunes, actifs, on va dire. C'est convenu comme ça que c'est toujours le local qui a le dernier mot. Quand on va à l'Assemblée des Assemblées, ça ne nous engage pas, on n'a rien, on ne signe pas, en fait, ça ne nous engage pas à aller dans telle ou telle voie. Après, on fait des propositions et c'est les groupes locaux qui décident en fait s'ils valident ou pas. Et voilà.